Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de la Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi du commentaire, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
La Voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Institut indonésien des sciences, l'IPI, et l'Université de Queensland en Australie renforcent la coopération de recherche dans les petites îles et la grande ville. Le président Jokowi a demandé à la Serbie d'élargir l'accès au marché à l'Indonésie. L'Indonésie invitera la Malaisie et les Philippines pour discuter de la patrouille conjointe. Le ministère des Affaires étrangères a dit que l'Indonésie était toujours prête à être un médiateur de la Corée du Sud et la Corée du Nord. Gary Nugroho a reçu un prix de l'ambassadeur français. Et enfin, Bantul envoie 8 artisans à Hong Kong. Voici le journal complet. L'Institut indonésien des sciences, l'IPI, et l'Université de Queensland en Australie renforcent la coopération de recherche dans les petites îles telles que Lombok, Ambon et dans les grandes villes telles que Jakarta, Semarang et Surabaya. Le chef de l'Institut indonésien des sciences, l'IPI, Iskandar Zulkarnain, a déclaré dans une conférence de presse conjointe avec le vice-chancelier de l'Université de Queensland en Australie, Peter Hodge à l'IPI Jakarta, que la recherche était basée sur la recherche précédente que la charge environnementale dans les zones côtières était très lourde, de sorte que cette région a besoin d'obtenir une attention plus sérieuse pour être gérée à travers des études de recherche.
Pembangunan yang sangat pesat itu terjadi di daerah pesisir. Beban lingkungan yang paling besar itu berada di daerah pesisir.
Le développement rapide ou le problème de l'environnement et la charge environnementale du développement dans les zones côtières qui n'est plus en mesure d'être couverte par la capacité de charge de l'environnement. Par conséquent, les zones côtières devraient être données plus d'attention et nous pouvons voir beaucoup de problèmes de grandes villes aux zones côtières. Selon Iskandar Zulkarnain, la coopération entre l'IPI et l'Université de Queensland est soutenue par la similitude de la mission de la science et l'innovation. Cette recherche peut être utilisée par les ressources humaines des deux institutions pour trouver des solutions aux problèmes qui se produisent dans les deux pays. Le président indonésien Joko Widodo ou Jokowi a demandé au gouvernement de Serbie d'élargir l'accès de marché des produits indonésiens à ce pays. C'est ce qu'a affirmé le président Jokowi lors d'une conférence de presse ensemble avec le président de la Serbie, Tomislav Nikolic, qui a visité le palais présidentiel à Jakarta mercredi. Le président Jokowi a affirmé que la tendance des échanges des deux pays avait augmenté de manière significative, 85% au cours des 5 dernières années. Par conséquent, l'Indonésie espère que les obstacles tarifaires et non tarifaires peuvent être diminués ou même supprimés. Le président Jokowi a affirmé que la visite du président de la Serbie était un honneur pour l'Indonésie parce que c'est la première visite d'un chef d'État de la Serbie à l'Indonésie après 58 ans. Selon lui, l'Indonésie et la Serbie ont un fort lien historique parce que les deux pays ont un rôle très important pour le précurseur de la naissance du mouvement des non-alignés. Le gouvernement indonésien invitera le commandant des forces armées indonésiennes, le ministre des Affaires étrangères de la Malaisie et les Philippines à assister à une réunion à Jakarta pour discuter des patrouilles conjointes dans les zones sujettes à des actes de l'otage. Le président Joko Widodo au Palais d'État de Jakarta le mardi a dit qu'il faut faire la patrouille conjointe dans la région vulnérable à l'action de l'otage, notamment le groupe d'Abu Sayyaf, parce que ces crimes régulièrement effectués. Le président Joko Widodo a déclaré qu'il est temps d'arrêter les actes d'otage menés par le groupe Abu Sayyaf. En plus de la raison de rançon, l'action d'Abu Sayyaf perturbe également les routes commerciales maritimes. Concernant les citoyens indonésiens qui ont été pris en otage par Abu Sayyaf, le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie utilise encore la façon diplomatique pour les sauver. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a déclaré que l'Indonésie était toujours prête à être le médiateur dans la réconciliation de la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est ce qui a été déclaré par Arman Atanasir mercredi à Jakarta lors de la demande de la Corée du Sud pour que l'Indonésie soit plus ferme et joue un rôle actif dans la réduction de l'essai nucléaire de la Corée du Nord. Récemment, la Corée du Nord a annoncé qu'il fera le test le plus récent de missiles nucléaires en mai. Concernant cette question, Armanata a demandé à la Corée du Nord de ne pas faire des actions qui peuvent augmenter les tensions dans la péninsule coréenne. En outre, l'Indonésie continue également à améliorer les relations bilatérales avec la Corée du Nord et du Sud afin de rapprocher les deux pays. Lors de l'interview dans le festival de kimchi à l'ambassade sud-coréenne à Jakarta le mercredi, l'ambassadeur Cho Tae-yong espère que l'Indonésie, qui a des bonnes relations avec la Corée du Nord, peut donner l'influence à ce pays pour mettre fin à son essai nucléaire. L'ambassadeur Cho Tae-yong a également demandé à la communauté internationale d'unifier afin de presser la Corée du Nord et créer de la paix dans la péninsule coréenne. Le directeur indonésien Gary Nugroho a accepté la médaille d'honneur de chevalier dans l'ordre des arts et lettres de l'ambassadeur français à l'Indonésie, Madame Corkin Bruze, à Jakarta récemment. Cette médaille d'honneur du ministère de la Culture et de la Communication de la République française est accordée aux figures indonésiennes qui jouent un rôle de renforcer les relations et d'encroiser la naissance de diverses coopérations entre la France et l'Indonésie. Madame Corinne Bruze, à travers un communiqué de presse cité par Antara, a déclaré mercredi que ce prix était une reconnaissance de sa brillante carrière de Gary Nugroho dans le domaine de la culture et de la grande contribution dans le développement de l'industrie du cinéma en Indonésie, une industrie qui est très appréciée en France. Selon elle, Gary Nugroho a également des liens avec la France parce que ses deux œuvres incluses dans la nomination à certains regards du Festival du film de Cannes. Gary Nugroho a mentionné cette médaille était le meilleur prix pendant 35 ans de son voyage dans le monde du cinéma qui a commencé en faisant des films à l'âge de 19 ans. Le service de l'industrie, du commerce et de la coopérative de Bantul, Yogyakarta envoie 8 artisans locaux pour assister aux foires artisanales à Hong Kong au cours de cette semaine. Cela a été déclaré par le chef du service de l'industrie, du commerce et de la coopérative de Bantul, Sulistianto, mercredi à Bantul. Selon lui, les artisans qui participent à l'exposition tenue du lundi au vendredi demain sont les petits artisans, mais ont la qualité et la compétitivité des produits sur le marché international, si bien qu'ils nécessitent la promotion à travers de ces expositions. Pendant ce temps, divers produits excellents de Bantul qui ont déjà la qualité des exportations sont entre autres les meubles, les poteries, les batiks, les artisanats de batik en bois et les artisanats en cuir. Tandis que les pays de destination principaux des exportations de l'artisanat sont les États-Unis et l'Europe, la plupart des pays du Moyen-Orient et dans les régions asiatiques comme le Japon, la Chine, la Corée du Sud, ainsi qu'un certain nombre de pays de l'Asie du Sud-Est. Serge Ritter, c'était le journal pour ce soir. Cinquième longtemps, pour l'arbitre suivante, voici donc le commentaire et pour le titre. Les gouvernements indonésiens et australiens sont d'accord pour mettre en œuvre la certification électronique. Dans le but de faciliter le flux des échanges commerciaux et de réduire le temps des activités de chargement et de déchargement, l'Indonésie et l'Australie ont convenu de mettre en œuvre officiellement le certificat électronique de quarantaine à partir de juin prochain. La facilité de cette installation est la coopération bilatérale entre l'Indonésie et l'Australie. L'Australie mettra en œuvre un programme similaire sur les produits agricoles en provenance de l'Indonésie. Avec la certification électronique, le processus d'analyse des risques sera réalisé rapidement. Le document d'information des produits peut être délivré à partir du pays d'origine et peut être traité par l'agence de quarantaine agricole. L'échange de certificats électroniques ou e-certification des imports-exports de produits agricoles a été lancé par l'agence de la quarantaine du ministère indonésien de l'agriculture et le département de l'agriculture de l'Australie comme la mise en œuvre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le chef de l'agence de quarantaine agricole, Banun Harpini, a déclaré que les deux parties étaient responsables des certificats qui sont échangés et convenus de promouvoir des installations numériques dans le commerce des produits agricoles. L'utilisation des certificats électroniques aura un impact significatif sur la certification de sécurité pour empêcher la falsification des documents de quarantaine et réduire le temps d'attente des activités de chargement et de déchargement. Sur la base de données du système de certification électronique de l'agence de quarantaine en 2015, le volume de la certification des produits d'exportation agricole d'Indonésie à l'Australie a atteint environ 1000 certificats. À l'inverse, pour l'importation de produits agricoles de l'Australie à l'Indonésie et enregistré plus de 3000 certificats. Les services de certification électronique peuvent également presser le temps d'attente des navires qui chargent les produits agricoles. Donc, le problème du temps de séjour qui avait été en question peut être anticipé bientôt. Ainsi, les produits d'import-export arriveront plus rapidement dans le pays de destination. Si le système de certification est effectué manuellement, il prend beaucoup de temps, d'environ 4 à 5 jours. Alors que par e-certificat, il sera le temps réel. Cela signifie que si le produit est délivré ce jour, le certificat est également accepté dans le même jour. Une telle coopération est pour la première fois effectuée dans la région d'Asie-Pacifique. Après l'Australie, il y aura d'autres pays qui coopèrent avec l'Indonésie en matière de certificats électroniques tels que la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Malaisie. Espérons que la mise en œuvre des certificats électroniques sera en mesure de réduire au minimum les barrières qui existent afin que la coopération bilatérale soit de plus en plus forte et plus rentable. C'est le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous allons vous rencontrer dans notre programme Aujourd'hui dans l'histoire de la Voix de l'Indonésie. Nous allons commencer le 28 avril 1949, la mort de Khairil Anwar, un poète indonésien, membre des générations de 1945. Khairil Anwar est un poète indonésien, membre de ce que les Indonésiens appellent la génération de 1945 ou Angkatan 45, en référence à la période de 4 années qui commence en 1945 avec la proclamation de l'indépendance de l'Indonésie et se termine avec le transfert de la souveraineté des Pays-Bas à l'Indonésie en 1949. Il est né à Medan, Sumatra du Nord, le 26 juillet, les Antes néerlandaises. Khairil est éduqué dans des écoles hollandaises. Il doit quitter les études à l'âge de 19 ans. Il déménage à Batavia, aujourd'hui Jakarta, avec sa mère après le divorce de ses parents. Il se met à lire de la littérature occidentale, ce qui aura une influence sur sa propre écriture et la distinguera des écrivains traditionnels qui le précédent. Ses poèmes sont diffusés sur le papier bon marché lors de l'occupation japonaise des Indes néerlandaises. Ils ne sont publiés qu'en 1945. Il semble que ce soit la mort de sa grand-mère qui pousse le jeune Khairil à écrire des poèmes. La mort est d'ailleurs un thème de nombreux d'entre eux. Ces poèmes ont été rassemblés dans un recueil intitulé « Des rues tambour debout » ou « Grondement mêlé de poussière » et publié en 1949. Son état de santé est alors détérioré en raison de son mode de vie. Il meurt à l'hôpital CBZ Hospital, aujourd'hui l'hôpital public Cipto Mangunkusumo à Jakarta, le 29 avril 1949. Cette date est aujourd'hui c'est la journée de la littérature indonésienne. Il est enterré au cémétaire Karet Bivak de Jakarta. On change le 28 avril 1937 la naissance de Saddam Hussein, chef d'État irakien. La naissance de l'homme d'État irakien Saddam Hussein, le 28 avril 1937, président de la République irakienne entre 1979 à 2003. Il est impliqué dans les 3 guerres du Golfe qui ont eu lieu pendant cette période, accusé de crimes de guerre, meurtres, crimes contre l'humanité et le génocide envers les Kurdes. Il a été ramené à mort et exécuté le 30 décembre 2006 par la pendaison à Bagdad. On continue le 28 avril 1954, conférence de Colombo. Les dirigeants de l'Inde de Ceylan, aujourd'hui de Sri Lanka, de la Birmanie, de l'Indonésie et du Pakistan, se réunissent à Colombo afin d'accélérer la fin de la guerre en Indochine. La réunion se tiendra jusqu'au 2 mai et traitera également du nucléaire, l'admission de la République populaire de Chine aux Nations Unies et des tensions issues de la guerre froide. De ce premier rassemblement va naître la volonté d'organiser une conférence réunissant tous les pays du tiers-monde ayant été libérés de la colonisation, conférence de Bandung 1955. On termine le 28 avril 1992, les Mujahidines prennent Kaboul. Ayant éclaté après le retrait des troupes soviétiques, la guerre civile se poursuit, mais oppose cette fois les différentes factions mujahidines. Dans ce contexte, Ahmad Shah Massoud, accompagné des milliers d'hommes, s'empare de Kaboul et chasse Mohammad Najibullah. Massoud deviendra alors ministre de la Défense. Burhanuddin Rabbani, soutenu par Massoud, sera chargé de gouverneur provisoirement le pays. En 1993, le Pashtun Gulbuddin Hekmatyar endossera le rôle de premier ministre, tandis que Massoud démissionnera de son poste de ministre de la Défense. Malgré la prévision d'élection pour 1994, les conflits s'intensifieront par la suite entre les partisans de Rabbani et ceux de Hekmatyar. Ses amis, c'était notre programme aujourd'hui dans l'histoire de la voix de l'Indonésie à Jakarta. À demain.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la mise au point intitulée les femmes entrepreneurs face à l'ère concurrentielle de la communauté économique de l'ASEAN. Avril est un mois important pour les femmes indonésiennes. Dans ce mois, elles commémorent l'anniversaire de Kartini, une pionnière de la progression des femmes en Indonésie. Coïncidant avec la commémoration du jour de Kartini, le jeudi 21 avril, Facebook et l'Association des femmes d'affaires indonésiennes, ou IWAPI, a lancé un programme au ministère de communication et des technologies de l'information à Jakarta. Ce programme soutient les femmes entrepreneurs dans l'établissement entreprise dans le domaine de la ligne en Indonésie. IWAPI tiendra des formations en entrepreneuriat pour les femmes en Indonésie pour qu'elles aient de compétitivité dans la communauté économique de l'ASEAN. Alors que Facebook va les aider à créer une page d'entreprise ou la page Facebook. Le chef des initiatives de croissance économique pour la région Asie-Pacifique sur Facebook, Claire Devi, a déclaré que les hommes d'affaires pourraient atteindre plus de personnes lorsqu'ils sont entrés dans le monde numérique. Le nombre de pages Facebook, les petites et moyennes entreprises détenues par les femmes indonésiennes ont augmenté près de 3 fois dans la période 2014 jusqu'à 2015. Selon Claire, page de Facebook peut être un pont pour les femmes entrepreneurs indonésiennes de se connecter avec d'autres femmes d'affaires dans la région Asie-Pacifique. Nombre d'utilisateurs de Facebook en Asie-Pacifique atteint 540 millions de personnes. Pendant ce temps, le président de l'Association des femmes d'affaires indonésiennes, ou IWAPI, Madame Nita Yudi, demande aux femmes de ne pas avoir peur de commencer des affaires et devenir les entrepreneurs. Le plus important, ce qu'ils peuvent faire et s'ils ont aussi un réseau. IWAPI est sûr que les femmes, notamment les jeunes femmes, seront plus faciles à utiliser Facebook dans la gestion d'entreprises. En ce moment, diverses activités peuvent être faites à partir d'appareils mobiles, de sorte qu'ils seront plus faciles à gérer et ne pas interférer d'autres activités. À une autre occasion, l'observateur économique Indo-Sterling Capital, William Hanley, à Jakarta, a demandé au gouvernement d'encourager la croissance des femmes entrepreneurs pour être plus compétitives à l'ère de la concurrence de la communauté économique de l'ASEAN. Jusqu'à présent, selon les observations d'Henley, les femmes dans la région face encore aux obstacles pour commencer l'entreprise indépendante. William Henley a déclaré, sur la base de données qui a été publiée par le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises, les femmes sont les plus largement exigées dans le secteur d'affaires. 52 millions de petites et moyennes entreprises en Indonésie, 60% sont gérées par des femmes. Jusqu'à présent, les PME deviennent le sauveur de l'économie nationale. Les entrepreneurs des femmes ont leur rôle très important dans l'économie nationale, a déclaré Anne Lee. Espère que le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises, le ministère des conditions féminines et de protection de l'enfant, et le ministère de développement rural et aussi de la transmigration, y compris l'agence de l'économie créative, travaillent ensemble pour améliorer le bien-être des femmes. C'était la mise au point de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
L'Institut indonésien des sciences LIPI et l'Université de Queensland en Australie renforcent la coopération de recherche dans les petites îles telles que Lombok, Ambon et dans les grandes villes telles que Jakarta, Semarang et Surabaya. Le chef de l'Institut indonésien des sciences LIPI, Iskandar Zulkarnain, a déclaré dans une conférence de presse conjointe avec le vice-chancelier de l'Université de Queensland en Australie, Peter Hodge à LIPI Jakarta, que la recherche était basée sur la recherche précédente que la charge environnementale dans les zones côtières était très lourde, de sorte que cette région a besoin d'obtenir une attention plus sérieuse pour être gérée à travers des études de recherche.
pembangunan yang sangat pesat itu terjadi di daerah pesisir. Beban lingkungan yang paling besar itu berada di daerah pesisir.
Le développement rapide ou le problème de l'environnement est la charge environnementale du développement dans les zones côtières qui n'est plus en mesure d'être couverte par la capacité de charge de l'environnement. Par conséquent, les zones côtières devraient être données plus d'attention et nous pouvons voir beaucoup de problèmes de grandes villes aux zones côtières. Selon Iskandar Zulkarnain, la coopération entre l'IPI et l'Université de Queensland est soutenue par la similitude de la mission de la science et l'innovation. Cette recherche peut être utilisée par les ressources humaines des deux institutions pour trouver des solutions aux problèmes qui se produisent dans les deux pays. Le président indonésien Joko Widodo ou Jokowi a demandé au gouvernement de Serbie d'élargir l'accès de marché des produits indonésiens à ce pays. C'est ce qu'a affirmé le président Jokowi lors d'une conférence de presse ensemble avec le président de la Serbie, Tomislav Nikolic, qui a visité le palais présidentiel à Jakarta mercredi. Le président Jokowi a affirmé que la tendance des échanges des deux pays avait augmenté de manière significative, 85% au cours des cinq dernières années. Par conséquent, l'Indonésie espère que les obstacles tarifaires et non tarifaires peuvent être diminués ou même supprimés. Le président Jokowi a affirmé que la visite du président de la Serbie était un honneur pour l'Indonésie parce que c'est la première visite d'un chef d'État de la Serbie à l'Indonésie après 58 ans. Selon lui, l'Indonésie et la Serbie ont un fort lien historique parce que les deux pays ont un rôle très important pour le précurseur de la naissance du mouvement des non-alignés. Le gouvernement indonésien invitera le commandant des forces armées indonésiennes, le ministre des Affaires étrangères de la Malaisie et les Philippines à assister à une réunion à Jakarta pour discuter des patrouilles conjointes dans les zones sujettes à des actes de l'otage. Le président Joko Widodo au palais d'État Jakarta le mardi a dit qu'il faut faire la patrouille conjointe dans la région vulnérable à l'action de l'otage, notamment le groupe d'Abu Sayyaf, parce que ces crimes régulièrement effectués. Le président Joko Widodo a déclaré qu'il est temps d'arrêter les actes d'otage menés par le groupe Abu Sayyaf. En plus de la raison de rançon, l'action d'Abu Sayyaf perturbe également les routes commerciales maritimes. Concernant les citoyens indonésiens qui ont été pris en otage par Abu Sayyaf, le président Joko Widodo a déclaré que l'Indonésie utilise encore la façon diplomatique pour les sauver. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arman Atanasir, a déclaré que l'Indonésie était toujours prête à être le médiateur dans la réconciliation de la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est ce qui a été déclaré par Arman Atanasir mercredi à Jakarta lors de la demande de la Corée du Sud pour que l'Indonésie soit plus ferme et joue un rôle actif dans la réduction de l'essai nucléaire de la Corée du Nord. Récemment, la Corée du Nord a annoncé qu'il fera le test le plus récent de missiles nucléaires en mai. Concernant cette question, Armanata a demandé à la Corée du Nord de ne pas faire des actions qui peuvent augmenter les tensions dans la péninsule coréenne. En outre, l'Indonésie continue également à améliorer les relations bilatérales avec la Corée du Nord et du Sud afin de rapprocher les deux pays. Lors de l'interview dans le festival de kimchi à l'ambassade sud-coréenne à Jakarta le mercredi, l'ambassadeur Cho Tae-yong espère que l'Indonésie, qui a des bonnes relations avec la Corée du Nord, peut donner l'influence à ce pays pour mettre fin à son essai nucléaire. L'ambassadeur Cho Tae-yong a également demandé à la communauté internationale d'unifier afin de presser la Corée du Nord et créer de la paix dans la péninsule coréenne. Le directeur indonésien Gary Nugroho a accepté la médaille d'honneur de chevalier dans l'ordre des arts et lettres de l'ambassadeur français à l'Indonésie, Madame Corkin Bruce, à Jakarta récemment. Cette médaille d'honneur du ministère de la Culture et de la Communication de la République française est accordée aux figures indonésiennes qui jouent un rôle de renforcer les relations et d'encroiser la naissance de diverses coopérations entre la France et l'Indonésie. Madame Corinne Brouzet, à travers un communiqué de presse cité par Antara, a déclaré mercredi que ce prix était une reconnaissance de sa brillante carrière de Gary Nugroho dans le domaine de la culture et de la grande contribution dans le développement de l'industrie du cinéma en Indonésie, une industrie qui est très appréciée en France. Selon elle, Gary Nugroho a également des liens avec la France parce que ses deux œuvres incluses dans la nomination à certains regards du Festival du film de Cannes. Gary Nugroho a mentionné « Cette médaille était le meilleur prix pendant 35 ans de son voyage dans le monde du cinéma qui a commencé en faisant des films à l'âge de 19 ans. » Le service de l'industrie, du commerce et de la coopérative de Bantul, Yogyakarta, envoie 8 artisans locaux pour assister aux foires artisanales à Hong Kong au cours de cette semaine. Cela a été déclaré par le chef du service de l'industrie, du commerce et de la coopérative de Bantul, Sulistianto, mercredi à Bantul. Selon lui, les artisans qui participent à l'exposition tenue du lundi au vendredi demain sont les petits artisans mais ont la qualité et la compétitivité des produits sur le marché international, si bien qu'ils nécessitent la promotion à travers de ces expositions. Pendant ce temps, divers produits excellents de Bantul qui ont déjà la qualité des exportations sont entre autres les meubles, les poteries, les batiks, les artisanats de batik en bois et les artisanats en cuir. Tandis que les pays de destination principaux des exportations de l'artisanat sont les États-Unis et l'Europe, la plupart des pays du Moyen-Orient et dans les régions asiatiques comme le Japon, la Chine, la Corée Sud ainsi qu'un certain nombre de pays de l'Asie du Sud-Est. Serge Ritter, c'était le journal pour ce soir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing. Connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525. Et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Cette fois, je vais présenter un plat typique de Dompu, Puru Timbu. Dompu est l'une des régions à Nusa Tenggara Ouest, connue comme producteur de lait de cheval chauvasse et le miel. En outre, Dompu est également connue comme une région riche en diversité des animaux de ferme, comme par exemple le buffle des marais. Dompu est plus visitée par les touristes qui admirent la beauté du mont Tambora. Le mont Tambora a la plus grande caldeira en Asie du Sud-Est, et Dompu a également l'île Satonda avec le lac de Salé et la place Laki avec des vagues qui font les surfeurs de divers pays viennent à Dompu. Non seulement riche en destinations touristiques naturelles, Dompu est également riche en plats typiques, entre autres Puro Timbu. Puro Timbu est le riz gluant cuit dans le bambou. L'intérieur est un peu mou, mais l'extérieur de Puro Timbu durcit car il est plus exposé à une flamme lorsqu'il est brûlé. Pour faire le Puro Timbu, il faut avoir la patience et de minutie. Son principal ingrédient est du riz gluant. Le riz gluant doit être lavé et trempé de 3 jusqu'à 4 heures et ensuite il est essoré et mis dans des morceaux de bambou mesurant environ 30 cm. À la fin, ajoutez le lait de coco salé dans le bambou, puis recouvert avec de la poudre de noix de coco râpée. Le bambou est contient du riz gluant et le lait de coco sont brûlés pendant 3 jusqu'à 4 heures. Pour manger Puro Timbu, d'abord le bambou doit être ouvert. Il est délicieux et savoureux. Puro Timbu sera plus délicieux lorsqu'il est mangé avec le tapai. Cela est le manioc fermenté. Pour acheter le Puro Timbu, vous pouvez trouver le vendeur Puro Timbu sur le marché Atas. Venez dans l'après-midi parce que les commerçants commencent à vendre dans l'après-midi. Le prix de ce plat environ 25 000 rupiah jusqu'à 35 000 rupiah par tic. Le Puro Timbu est acheté par les résidents locaux et également par les touristes pour leurs souvenirs. Pour la société Dompu, le Puro Timbu fait partie de leur vie quotidienne. Au moment de la récolte, le Puro Timbu existe à la fête de la moisson. Pour exprimer la joie de la récolte, les habitants tiennent habituellement une prière ensemble et la tradition de cuisson de Puro Timbu. En plus d'être une expression de la joie de la récolte du riz, du maïs et les autres, l'activité de brûler Puro Timbu est aussi une partie d'une forme de la culture d'entraide et de solidarité des citoyens. Parce que pour faire Puro Timbu, les résidents préparaient les ingrédients et cuire Puro Timbu ensemble. Chers amis, vous avez écouté tout à l'heure le magazine culturel intitulé Puro Timbu, le plat typique de Dompu. Et merci à tous. À bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers fidèles amis, la voix de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Voici le magazine de Warna-Warni, ou couleurs indonésiennes, édition de jeudi. Et pour ce soir, on vous présente des informations sur le Festival Marine de Sabang. Et assurez-vous que vous restez toujours avec nous dans www.voi.co.id ou bien via Encourt sur la fréquence 9525 kHz. Chers fidèles amis, Sabang est une ville située sur l'île de Weh, en province d'Aceh, et la passerelle dans la pointe de l'ouest de l'Indonésie. L'étendue de Sabang est 156,3 km².
Elle est devenue l'une des destinations maritimes indonésiennes qui offre le paradis pour les plongeurs parce que la nature sous-marine est si belle. Où il y a des centaines d'espèces de poissons et la richesse de récifs naturels. Non seulement le tourisme maritime, il y a aussi des montagnes, des lacs, des plages, la mer et les forêts vierges et éveillées. Sans oublier les traditions et la culture unique de la ville de Sabang est aussi intéressant à savoir. Tout ce potentiel a été continuellement mis au point par le gouvernement régional de Sabang. Chers amis, pour présenter le potentiel de la marine et de la beauté de Sabang à la communauté internationale, l'administration locale organise le Festival Marin de Sabang 2016. Ce festival, qui se déroule du 26 au 30 avril, introduit aussi le port de Marina de Lok Weng à la communauté marine mondiale, ainsi augmente le nombre d'arrivées de touristes à l'Indonésie, en particulier à Aceh. On projette que l'objectif de visite des touristes avec leur mise en œuvre de Sabang à ce festival atteint 1500 touristes, y compris l'Indonésie et étrangère. Pour organiser ce festival marin de Sabang, le comité fait collaboration avec le Conseil de la zone commerciale libre et l'autorité de port de Sabang avec le ministre de Tourisme ainsi que le Bureau de la Culture et du Tourisme d'Aceh et Sabang. Cet événement a été officiellement ouvert par le gouverneur d'Aceh et conseiller honoraire du ministère de Tourisme, Indroyono Susilo, ce mardi. Ce festival est célébré avec l'ouverture des attractions de surfang. Les activités de cette fête se concentrent non seulement sur les activités de voile et de maritime, mais il y a aussi une série d'activités passionnantes à faire participer le public et les communautés de yacht, comme concours blogging marine de Sabang, de vélo, se balade et les autres activités intéressantes et vivantes pour le public. Chers amis, c'était le magazine de warna-warni ukulele indonésien. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons la rubrique de distraction. Aujourd'hui, vous allez écouter les chansons en rythme pop.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs dans le monde entier. Rencontrons-nous dans le magazine musical un programme qui présente les musiques indonésiennes, soit traditionnelles et modernes. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.ce.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse, Ida Royani. Bon, chers auditeurs, pour ouvrir notre rencontre, voici la première chanson intitulée « Jaloux ». Bonne écoute.
kekasihmu, berikanlah jawaban padaku. Entah apa sejak itu aku ragu, ragu. Hati ingin bertanya, siapakah dia? Hey, 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 kawan, entah dia atau kekasihmu, berikanlah jawaban padaku. Berikanlah jawaban padaku.
Chers auditeurs, c'était la chanson d'Ida Royani intitulée « Jaloux ». Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.co.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook « Voice of Indonesia » ou à nous suivre sur Twitter « @voeindonesia ». Cette chanteuse est très confiante, sans hésitation et timide quand on lui demande de chanter sur la scène lorsqu'elle était petite. Ida Royani a déjà démontré la capacité à chanter depuis l'enfance. Avec son talent, elle devient finalement une chanteuse aux années 60. Ida Royani, avec une voix unique, est devenue l'idole des enfants de son âge dans le pays. Lors de l'adolescence, Ida Royani a continué les capacités vocales d'être une chanteuse pop solo. Son premier album n'était pas succès, mais Ida Royani ne se décourage pas à exister dans l'industrie musicale indonésienne. Elle a choisi un duo avec le chanteur et comédien Benjamin S. Le duo entre Benjamin S et Ida Royani ont réussi à lever sa popularité. Ida Royani commence à être très occupée avec la production des chansons en duo avec Benjamin. Bon, Serge Ritor, écoutons d'abord une chanson intitulée « Le plus délicieux » chantée par Ida Royani et Benjamin S. Bonne écoute.
Turun pegantian Inte abang ame mine berat mane
Inte
paling enak main enjot enjotan emang asik kalau lagi berduaan lupa makan lupa utang lupa darah. Jotan, amine, berat kita same-same. Dasar jodoh, timbangannya juga same. Kapan lagi lo bakal dapetin gue? Sayang bini, apa lagi lo beban deh? Lo setia nih, kalau perlu mandi gua mandiin lo, makan gua makanin lo. Oi pegangan, jangan anggut-anggutan. Kalau ngantuk, ntar ngegrusuk ke bawah.
Biarin.
Nanti abang bisa nangis muntah darah. Aih, berapa kita same-same susah. Zot-zotan Emas kasih-kasih-kasih berduaan.
Dari pongan
lupa makan, lupa utang, lupa daratan. Ayo mineng mulain zot-zotan.
Njuatan
Oke
Amine Baru aja gue kate Kenapa jatuh Kagak ngajak-ngajak ke gue Aduh boto Gita tebendal Aja bajendal Cepat diem dong Ntar abang beliin cendol Diem deh Minum deh cendolnya Ntar dilalerin tuh Enak ya Jangan-jangan Paling enak Main jual-jualan Gue di sini Lo di sana Kalau berduaan Lupa makan Lupa utang Lupa daratan Ayo mindeng Mulain Njot-njotan Amine Berat kita Same-same Dasar jodoh Timbangannya juga Same Kapan lagi
Chers amis de l'antenne, je vous rappelle que vous êtes toujours avec nous dans le programme Le Magazine Musical. La publication d'un certain nombre d'albums en duo avec Benjamin S a prouvé Ida Royani était un partenaire de duo Harmonio. Le duo a commencé à être actif dans le film. En fait, Ida Royani n'était pas longtemps de participer au stade de divertissement. Ida, qui a pris à l'école de mode, au Royaume-Uni, préfère développer une carrière dans le domaine des modèles. De plus, elle devient un pionnier des vêtements musulmans dans le pays et visite souvent les pays de l'Asie, Singapour, la Malaisie et d'autres. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson intitulée « Bruine » chantée par Ida Royani et Benjamin S. Bonne écoute.
Nangis aja Yang pergi jangan dipikirin hujan gerimis aja Ikan lele ada kumisnya
jangan menangis aja Kalau boleh cari gantinya Mengapa hujan gerimis aja Pergi berlayar ke Tanjung
saja kalau memang jodoh enggak kemana
Kalau
niat mencari jodoh
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Jalan-jalan ke kampung rawa, si Ida kulitnya hitam.
Awas ye.
Biar begitu Tyson gua.
Gundal gandil, si gundala gandil.
Dil.
Jalan-jalan ke kampung rawa, Benyamin orangnya bogel. Biar begitu Tyson gua. Hitam bukan sembarang. Biar hitam putih dalamnya.
Gue tahu semuanya hitam, yang putih cuman giginya. Si Ida orangnya hitam, sampai kapan juga tetap hitam.
Benyamin orangnya bogel, sampai kapan juga tetap bogel. Lu pakai sepatu hak tinggi juga tetap aja bogel, Ben.
Bogel orangnya. Enggak tahu ala. Duli paksilin, dulin, dulin, temetem. Jalan-jalan ke kampung rawa. Si Ida kulitnya hitam. Biar begitu Tyson gua.
Biar begitu Tyson gua. Hitam bukan sembarang hitam, biar hitam putih dalamnya.
Yang gua tahu semuanya hitam, yang putih cuman giginya. Duli pak silin dulin dulin tem tem udah hitam.
Radio Republik Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes. 15,150, 9,525 et 11,785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt et au revoir.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15,150, 9,525 et 11,785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box Mil Sang Sengkangset, Jakarta, Timil Ongs, Indonesia. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.